Bonjour, vous écoutez un podcast de l'Académie saison 3, proposé par le Mouvement des entreprises de France. Pour toute question liée à cet enregistrement, rendez-vous sur le site l'academiemedef.fr. Bon podcast à toutes et à tous.
Bienvenue à cette nouvelle session organisée par l'Académie MEDEF. Nous nous rencontrons sur la thématique « Les rencontres de la RSE ». Et aujourd'hui, le sujet qui va nous intéresser est la prévention et la gestion des déchets dans les stratégies RSE. Donc pour cela, nous accueillons Sébastien Sureau, directeur de mission au sein du pôle transition écologique.
Oui, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre participation qui s'annonce nombreuse à ce nouvel atelier donc consacré à la RSE. Donc, on a organisé cet événement collectivement, notamment avec nos collègues de la RSE, Pauline Ficmont. L'idée de cet après-midi, c'était d'évoquer la question de la RSE à travers un sujet plus spécifique qui est celui de la prévention et de la gestion des déchets. Donc cela fera maintenant bientôt 3 ans que la loi économie circulaire a été adoptée et donc dans cette loi il y a pas mal de dispositions qui avaient été proposées. Qui a été proposé en faveur d'une meilleure prévention et d'une meilleure gestion des déchets, notamment concernant le réemploi, la réparation et le don des invendus non alimentaires, voilà, qui seront notamment au cœur de nos discussions de cette heure. Et donc, on a sollicité un certain nombre de spécialistes du sujet, notamment l'ADEME, avec qui nous travaillons très régulièrement sur ces sujets-là. Et donc, on aura notamment le plaisir d'accueillir Christophe Marquet et Pierre Gallo, s'ils sont là tous les deux. Donc, ils sont au sein de la direction économie circulaire de l'ADEME, en charge des questions relatives notamment à la prévention des déchets et à la seconde vie des produits. Et puis, nous aurons deux retours d'expérience, entre guillemets, de la part de deux structures. L'une, c'est une association, l'association Don Solidaire, qui viendra nous parler de leurs actions en faveur de la réduction du gaspillage et notamment du don des invendus non alimentaires. Et puis, David Chorchier, qui est une entreprise qui, notamment, travaille dans le cadre des projets de réhabilitation des locaux et donc a une gestion, une meilleure prévention des déchets et potentiellement.
Mais là, tu vois, il va sauter tout seul, tu vas voir. Je lui fais ça.
Voilà, une fois qu'on aura réglé tous les problèmes techniques, on va laisser la parole à donc Christophe Marquet et Pierre Gallo, s'ils sont bien là.
Nous sommes bien là, bonjour, est-ce que vous nous entendez bien?
Alors, on vous entend, on ne vous voit pas, mais on vous entend. Ah, si on le voit, je ne vous vois pas, mais visiblement, on vous voit. Écoutez, on vous laisse la main, Pierre et Christophe. On vous laisse peut-être vous présenter, puis ensuite dérouler votre intervention.
Voilà. Bonjour à tous, Christophe Marquet, donc au siège de l'ADEME à Angers. Je fais partie de la direction économie circulaire au sein du service consommation responsable. Et donc je suis en charge de l'animation nationale sur les thématiques réemploi, réparation, seconde vie des produits.
Et pour ma part, Pierre Galliot. Donc je suis en charge du service consommation responsable, un des 4 services de la direction économie circulaire, donc basé à Angers, qui travaille plus sur l'aspect demande et globalement on essaie de travailler sur les changements de comportement, quels que soient les acteurs, pour limiter les consommations de ressources en amont, que ce soit par différentes pratiques comme la lutte contre le gaspillage ou l'allongement de la durée de vie, mais aussi des pratiques plus transversales, peut-être que les sujets comme la publicité ou les nouveaux modèles économiques comme l'économie de la personnalité. On pourra y revenir. Pour rentrer peut-être directement dans le vif du sujet, ça a été évoqué. La prévention est d'ailleurs un sujet dont on parlait beaucoup il y a quelques années encore et qui s'est un peu noyé dans la question de l'économie circulaire. Ça étant dit, toute stratégie d'économie circulaire commence par la prévention, c'est-à-dire l'évitement amont, certes, de la production de déchets, mais aussi l'évitement, c'est une évidence, de toute consommation de ressources, qu'il s'agisse de matière ou d'énergie, dans les process industriels. Donc, la prévention, ça reste un sujet majeur, et notamment, elle passe par un de ces axes, qui est l'allongement de la durée d'usage des produits, en B2B ou en B2C, afin de réduire, évidemment, les consommations de ressources liées à la fabrication de produits neufs. Donc, c'est un enjeu majeur pour l'ADEME et pour l'État, depuis la FREC et la loi économie circulaire. Et donc, l'objectif, c'est bien de rappeler dans les grandes lignes, Christophe va le faire dans un instant, l'importance de ce sujet-là, que ce soit, encore une fois, dans l'offre importante, dans les modèles économiques et évidemment l'évolution de la demande, sachant que sur ce point-là, outre l'aspect législatif et le rôle des éco-organismes et des REP, alors on voit aussi une évolution forte au niveau de la consommation sur la seconde main. C'est un sujet en tout cas qui se développe. Mais Christophe, je te laisse. C'est sûr.
Très bien. Alors, en quelques slides de résumé, donc là, vous avez une entrée en matière par la réglementation. Ce n'est pas l'objet du jour de détailler la réglementation. C'était là juste pour vous montrer que ce soit aussi bien au niveau de l'intervention de l'ADEME que... Comme au niveau de la législation, on a une prise en compte et une montée en puissance depuis maintenant une douzaine d'années. Donc je ne vais pas revenir en détail sur le slide qui vous est présenté là. J'ai mis en bleu quelques mots-clés qui vont peut-être intéresser les thématiques.
C'est Mathieu Castel.
On va parler aujourd'hui sur les pièces détachées, l'éco-conception, justement, donc le remploi à la réutilisation, en tout cas, différents sujets donc, qui contribuent à cette question de la prise en compte des usages, des produits, de leur durée et des actions pour les allonger et réduire leur trop fréquente consommation. Vous pouvez passer au slide de suivant. Voilà. Dans les éléments aussi qui sont importants, c'est donc le programme national de prévention des déchets qui fait suite au précédent de 2014-2020. Alors, ce n'est pas un programme qui est directement porté par l'ADEME. On y contribue pour l'expertise technique ou pour le suivi de certaines actions, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, mais c'était pour vous montrer que dans ce programme national de prévention des déchets, donc qui est piloté par notre tutelle, le ministère, vous voyez sur les 5 grands axes, il y en a au moins 4, je pourrais dire 5 parce que l'engagement des acteurs publics est aussi très important, mais en tout cas, il y en a au moins 4 qui sont sur les sujets du jour qui concernent donc l'éco-conception et l'allongement de la durée de vie des produits. Comment faire pour éviter de les gaspiller, et ça passe aussi par le remploi et la réutilisation. Donc, je ne vais pas détailler forcément les chiffres qui sont à côté, mais quelques éléments de compréhension sur l'imitation du gaspillage, la réduction des déchets qui est toujours l'un le cœur de nos sujets, et puis l'interdiction de destruction des invendus alimentaires, donc qui a une durée de mise en place d'un an. Aujourd'hui, on n'a pas de recul, on n'est pas forcément, nous, ADEME, chargés du suivi de cette mesure-là, donc c'est plutôt au niveau de la tutelle. C'est un sujet sur lequel eux aussi montent en puissance, et donc il y aura sans doute un certain nombre d'actions qui seront mises en œuvre dans les mois qui viennent. Donc on n'a pas forcément de retour précis à faire là-dessus aujourd'hui, mais c'est un élément important, et je pense qu'on en parlera de toute façon avec les acteurs qui suivront l'implémentation.
Et juste quand même deux points, pour rappel ou information, on a fait une étude très récemment avec nos partenaires non solidaires, notamment avec Don Nature, où on a évalué à plus de 4 milliards le montant quand même des invendus. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, rappeler que lutte contre les invendus, c'est disjoint la question du remploi. Le remploi étant, comme son nom l'indique, après un premier usage, ça étant dit, tout concourt évidemment à réduire le gaspillage et notamment le gaspillage du matière.
Cette mesure-là est très importante parce que justement, la philosophie de la mesure, c'est vraiment d'aller tout en haut, en amont, c'est-à-dire sur la prévention. On n'est justement pas sur l'aval et sur, on va dire, le curatif de trouver des solutions de valorisation des invendus. La philosophie et l'objectif, c'est bien d'essayer de concourir à la réduction de la production de ces invendus, donc de produire moins d'invendus. C'est bien ça l'objectif et la philosophie de la loi, et donc des potentielles actions qu'on mettra nous en œuvre par la suite. Vous pouvez passer au slide suivant. Voilà, alors là, c'est juste pour rappeler finalement quelle peut être la prise en compte aussi bien qualitative sur ces produits-là, mais aussi sur les usages de façon globale. Donc là, sans détailler, ça reprend en plus un certain nombre d'actions où le service consommation responsable, donc on est impliqué, hein, jusqu'à l'évaluation de ses propres besoins, donc pour bien acheter, pour acheter quand il est vraiment nécessaire, et puis les achats responsables, donc à travers différents critères, hein, qui peuvent être les labels, les indices, des choses que j'ai, je vais pas tout détailler, mais que j'ai rappelé un petit peu à côté, optimiser l'équipement, son utilisation, et puis donc ensuite les actions d'entretien, de réparation, de réemploi, et puis on déroule jusqu'à trier pour une valorisation matière si on arrive au bout de la vie ou des différentes vies des produits et matériaux.
Sachant que là, c'est vrai qu'on a une approche, c'est plutôt B2C, mais les différents précédents plans, notamment AGEC, permettent maintenant au niveau des achats publics, et pour rappel, il y a un nouveau plan national sur l'achat public, à passer par l'achat de seconde main et de réemploi. Ce qui est quand même hyper important, puisque encore une fois, étant donné les volumes évidemment financiers en jeu, ça peut orienter une partie de la demande, notamment des collectivités, mais pas que, des acteurs privés, vers des produits de seconde main reconditionnés. C'est important de le rappeler, il y a des facilités nouvelles grâce à la loi sur les achats responsables.
Passer à la slide suivante. Voilà. Sur cette représentation-là, c'est à la fois pour faire la passerelle sans forcément la détailler entre différentes dispositions qui sont dans la loi AGEC, et puis pour le coup des thématiques et des actions qui concernent, donc on a plus vu là les actions consommateurs, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Là on est aussi, donc on a cette durée d'usage qui peut être facilitée, optimisée par aussi évidemment dès le départ les producteurs et les distributeurs, donc à travers l'action d'éco-conception pour que ces produits soient plus durables, plus réparables, davantage robustes. Une fonction aussi d'éclairage des choix des consommateurs, donc j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure sur les indices de réparabilité, des indices de réparabilité qui sont existants sur 9 catégories de produits aujourd'hui et qui, à partir de début 2024, vont basculer sur un indice de durabilité qui ira donc au-delà de la réparabilité. Il y aura davantage de critères qui concourront à l'identification de ce nouvel indice et qu'on retrouvera aussi sur d'abord 5 produits et puis ensuite davantage de produits. L'information sur les garanties légales de conformité aussi, ça c'est important parce que il y a eu déjà donc un renforcement de cette garantie que le consommateur peut utiliser. Et puis on retrouve aussi ce sujet-là maintenant sur les produits d'occasion où avant, dans une structure de réemploi, quand vous achetiez un matériel d'occasion, on avait 6 mois de garantie. Maintenant, la loi l'a mis à 12 mois. Donc, c'est intéressant que ce soit aussi pour le consommateur, mais aussi pour les structures du réemploi qui doivent donc mettre en œuvre des critères qui permettent de concourir à l'allongement aussi de ce produit-là en tant que produit d'occasion. Et donc ça permet d'un petit peu de renforcer toutes les actions d'allongement de durée de vie de l'ensemble de l'écosystème, que ce soit les acteurs de l'ESS dont on parlera tout à l'heure, comme aussi les acteurs de l'économie conventionnelle qui concourent aussi à cet écosystème d'allongement de la durée de vie des produits. Faciliter l'allongement d'usage, ça, on s'intéresse aussi aux producteurs et distributeurs qui peuvent, à travers les actions menées en propre ou via des acteurs tiers, donc les acteurs que j'évoquais tout à l'heure, avec notamment des actions sur la réparation où la loi demande maintenant de mettre à disposition les notices, les pièces détachées avec des éléments sur la disponibilité. Je crois que je le détaille sur le... Non, je ne le détaille pas forcément sur... Donc, c'est des éléments sur la disponibilité des pièces détachées, assurer leur durée dans le temps pour que les réparateurs puissent pouvoir y accéder. Et puis, on a aussi des nouvelles alternatives comme l'impression 3D. L'ADEME va lancer d'ailleurs une étude sur ce sujet-là pour voir de quelle façon le recours à l'impression 3D peut participer à faciliter ces actions d'allongement de la durée de vie des produits. On a aussi une étude qui est en cours sur le remanufacturing. Donc, voilà, si c'est des termes qui vous parlent un petit peu, je ne vais pas forcément le développer là. Mais on a des études en cours justement sur ces sujets, certaines qui sont en ligne sur notre bibliothèque, notamment une étude très récente qui est publiée depuis la fin de l'année dernière sur, sur les effets et les impacts du reconditionnement de certains matériels électriques et électroniques, dont les téléphones portables. Donc voilà, c'est des choses que vous pouvez retrouver sur notre librairie en ligne et qui sont intéressantes à prendre en compte. Vous pouvez passer sur les slides suivants. Pour faire le lien avec le sujet du webinaire du jour, quelques chiffres très rapides, alors qui datent du panorama de la seconde vie des produits que l'ADEME a réalisé en 2017, qui sera actualisé cette année ou en 2024 ou plus tard. En tout cas, sans tout décrire, mais c'est pour montrer que les actions d'allongement de la durée de vie des produits ont aussi un impact sur notamment les structures qui s'en occupent directement, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, en nombre de structures, en ETP, et notamment quand on s'intéresse aux structures de l'économie sociale et solidaire, avec un vrai impact social en termes d'emploi, de retour à l'emploi de certaines personnes qui vont pouvoir être accompagnées et se professionnaliser sur ces actions et activités d'allongement de la durée de vie des produits.
Avec deux remarques quand même, ou précisions. Nous sommes au sein de la direction économie circulaire de l'ADEME. Il y a une autre direction qui a des missions historiques sur le soutien au réemploi depuis de nombreuses années. Et puis, il y a nos collègues de la direction de supervision des filières REP, également nouvellement créée, qui ont un rôle plus d'accompagnement et de supervision, comme son nom l'indique, des filières REP, avec notamment le pilotage de l'Observatoire du réemploi, qui est récemment créé et suivi par nos collègues de la DSREP. Donc, il y a aussi un complément d'action entre nos collègues de la DSREP et cette observation, qui sera notamment porté par nos collègues sur certaines REP, notamment pour le suivi des objectifs de réemploi, et notre travail complémentaire, en effet, sur cette vision du réemploi en tonnage. Autre point sur lequel Christophe a avancé quelques éléments, il est vrai qu'actuellement, on a une évolution assez forte entre les acteurs du secteur marchand qui viennent sur le secteur du réemploi, et finalement être en concurrence, mais ravi que le réemploi se développe, avec les acteurs historiques de l'ESS, et des difficultés aussi pour l'accès à la crème. Voilà, donc il y a un équilibre à trouver aussi sur le secteur pour faire en sorte que chacun s'y retrouve.
Je vais passer au slide suivant qui vous donne aussi, je ne vais pas tout détailler, mais quelques chiffres, alors que ce soit à gauche, les impacts sur l'économie sociale et solidaire ou à droite sur l'économie conventionnelle. Donc, je le disais, en termes de tonnage, en termes de chiffre d'affaires, de TP, donc c'est des chiffres un petit peu importants qui datent un petit peu, mais voilà, il y a une mise à jour, encore une fois, qui est prévue dans les mois qui viennent. Vous pouvez passer au slide de suivant. Donc, quelques ressources pour être accompagné. Alors, je n'ai pas tout développé, mais évidemment, le but, c'est de s'adresser aux professionnels du secteur via directement les structures qui peuvent être existantes localement sur les territoires. Sinon, il y a bien sûr toujours la possibilité de solliciter les réseaux nationaux généralistes ou spécialisés. Donc, j'en ai nommé quelques-uns, il n'y a pas tous. Et puis, il y a bien sûr des annuaires en ligne ou des cartographies, notamment Carteco, qui est un outil piloté par ESS France, pour lequel on a participé à l'accompagnement. Et on participe toujours, d'ailleurs, parce qu'il s'enrichit sur beaucoup de thématiques qui vont au-delà du réemploi. On y retrouve un petit peu toutes les thématiques de la transition écologique qui est en train de s'enrichir au fur et à mesure sur le gaspillage alimentaire, l'alimentation locale, donc le réemploi, la réutilisation, la réparation, etc. Et puis, il y a aussi d'autres réseaux ou annuaires que vous connaissez peut-être, dont le réseau Réparacteur pour les acteurs de la réparation, qui est porté aujourd'hui par la Chambre des métiers de l'artisanat. Donc là, vu le temps imparti, j'ai fait le choix de ne pas forcément détailler justement des choses. S'il y a des questions, je pourrais y répondre, mais qui tournent autour des nouvelles obligations de certaines filières REP, justement sur la thématique réemploi et aussi réparation, avec la constitution d'un fonds réparation, d'un annuaire, d'une labellisation des réparateurs, donc pour que le coût de la réparation soit plus accessible pour le consommateur. Je ne le développe pas là, mais tout ça est en cours de mise en œuvre, avec déjà la partie qui concerne les équipements électriques et électroniques qui est déjà opérationnelle, avec les premiers éco-organismes, écosystèmes écologiques qui ont déjà commencé à mettre une plateforme en marche. Donc, je vous invite à aller chercher tout ça sur le web, ou si nécessaire, je pourrais vous donner les liens pour les trouver. Et donc, pour finir, si vous pouvez avancer aussi dans les slides, voilà. L'idée aussi, encore une fois, là, on n'a pas le temps de tout développer, mais c'était de porter à votre connaissance ou de vous rappeler que il y a aussi d'autres modèles possibles qui concourent alors à l'économie circulaire, évidemment, mais à cette thématique un petit peu plus globale, avec davantage de prise de hauteur sur la prise en compte des usages des produits et de leur durée d'usage. On a des actions possibles qui concernent l'écologie industrielle et territoriale, donc qui peut s'adresser plus directement aux entreprises, et notamment pour faire du B2B, mais pas que, hein, mais voilà, avec un réseau Synapse qui existe. Et donc, vous voyez sur le schéma en bas à droite que l'écologie industrielle et territoriale, on est bien au cœur de la prévention. Et puis, slide suivant, c'est alors juste pour faire aussi une ouverture sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Donc là, voilà, sans développer non plus cette thématique, parce que ça pourrait faire l'objet d'un webinaire en elle-même, mais en tout cas, c'est pour ouvrir sur aussi ce champ-là qui se développe de plus en plus, que ce soit pour à travers un certain nombre de projets des collectivités, mais aussi directement via les entreprises et via déjà certains modèles d'affaires et certains modèles de consommation qui sont proposés avec cette connotation forte sur la collaboration en interne ou entre partenaires, parfois même avec les collectivités. Des choses très intéressantes qui sont à développer. Et on a, alors je ne les ai pas indiquées sur la présentation, mais on a au sein de l'ADEME et dans le service consommation responsable des correspondants qui s'en occupent à chaque fois. Donc, vous pouvez potentiellement solliciter aussi nos collègues dans les directions régionales et puis ici au siège.
Sachant que le but là pour finir, c'est bien d'être de un fonctionnement et une offre liée à la fonctionnalité et aux usages, et l'offreur de solutions restant propriétaire du matériel, ça permet d'allonger la durée de vie, puisqu'économiquement c'est plus intéressant. Donc c'est une autre façon de voir l'allongement de la durée de vie, et cette fois-ci, non pas à travers l'usage, mais à travers l'offre servicielle qui est proposée.
Et donc le dernier slide sur, voilà, sans, je ne vais pas détailler, mais sur un certain nombre de ressources que vous pouvez retrouver, notamment à gauche le site longuevieauxobjets.gouv.fr qui est très intéressant, avec une page dédiée aux entreprises. Vous pouvez retrouver énormément de choses, justement les annuaires, les bases sources, des retours d'expérience, des vidéos, des liens vers les acteurs, donc c'est plutôt très intéressant. Notre plateforme Agir, avec vous pouvez accéder aux différents systèmes d'aide et aux différentes possibilités d'accompagnement par l'ADEME, et puis donc via notamment le site Optiged, mais on a aussi notre librairie en ligne. Vous pouvez retrouver les outils, méthodes, REX, les dernières études, etc. Merci de votre écoute.
Merci.
Merci beaucoup, messieurs, pour cette introduction un peu générale sur tous les axes de la prévention et de la gestion des déchets. Donc c'est vrai que vous le voyez, hein, les possibilités de thématiques sont nombreuses sur ce sujet-là. Donc on a souhaité en prendre seulement deux, hein, dans le cadre de ce webinaire de cet après-midi, mais éventuellement on pourra réorganiser des nouveaux webinaires sur ce sujet dans les prochains mois. Et d'ailleurs, j'en profite tout de suite pour vous informer que le MEDEF organisera également le 16 février matin un événement dédié à l'économie circulaire à l'occasion des 3 ans de l'adoption de la loi économie circulaire. Donc voilà, on vous enverra aussi rapidement une information, une invitation concernant cet événement-là. Et on aura le plaisir notamment d'accueillir le président de l'ADEME à l'occasion de cet événement. Donc voilà, pour compléter le panel des représentants ADEME sur ce sujet. Voilà, je ne sais pas si on prend peut-être une ou deux questions, éventuellement, si certains souhaitent poser des questions, n'hésitez pas, le chat est là. Juste peut-être, il y a une question dans le chat concernant les sanctions encourues en cas de mise aux ordures de produits culturels non alimentaires. Des CD par exemple. Donc voilà, est-ce que, en effet, donc j'imagine que c'est, ça s'adresse plutôt à des particuliers. Est-ce que les particuliers ont des sanctions concernant justement la mise au rebut de certains produits?
Alors, très honnêtement, on ne travaille pas sur cette partie-là. Cela étant dit, il y a des filières de valorisation sur les produits culturels, en l'occurrence.
Ça dépend des. Voilà. Les sanctions encourues, globalement, il n'y en a pas. Enfin, si on, si on s'adresse là aux particuliers, bon, de toute façon, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de. Voilà. Ce qui est poussé, c'est. Voit là dans certains messages publicitaires, notamment via les éco-organismes, à inciter à faire du tri pour faire davantage de valorisation, mais les sanctions encourues, il n'y en a pas. Si on s'adresse à des professionnels dont on va là plutôt parler des chefs d'activité économique, donc ce n'est pas forcément des CD, même des CD bureautiques peut-être, mais je parle de façon globale. Là, on est sur la réglementation 2016, le tri 5 flux, et donc. Et donc, et qui est passé effectivement maintenant à 7, voire 8, 9, si on met certains, certains flux qui concernent les produits du bâtiment. Mais en tout cas, là, bon, la, la loi dit que si ce tri n'est pas mis en œuvre pour les déchets d'activité économique, il y a des sanctions qui sont possibles. Bon, encore faut-il qu'il y ait beaucoup de contrôle et tout ça, je ne suis pas sûr qu'il y en ait, mais bon, en tout cas, voilà, pas, pas forcément de sanctions encourues. Si on a des choses qui sont jetées dans les ordures ménagères.
Mais on n'est pas dans la philosophie de la prévention pour le coup. Là. Voilà. On est complètement en aval.
J'ai vu aussi qu'il y avait une question sur les chiffres 2017 que j'ai présentés tout à l'heure. Donc, effectivement, ça date un petit peu. Bon, la dynamique, malgré notamment la période Covid, on sait que la dynamique sur l'appétence concernant on va dire les objets d'occasion et les objets de la seconde main, que ce soit en termes de nombre de structures, de développement de structures et l'appétence vis-à-vis des consommateurs, qu'ils soient particuliers ou professionnels, elle est en augmentation, ça c'est certain. Ça ne veut pas dire que les modèles économiques, notamment des structures de l'ESS, sont plus costauds, pas forcément, mais en tout cas, il y a l'appétence, c'est sûr. On sait que cette mise à jour-là, elle est nécessaire, elle va venir, comme je disais tout à l'heure, on ne l'a pas fait parce que pour le coup, ça demande une observation assez conséquente. C'est toujours difficile d'avoir des données et le fait est qu'avec la mise en place justement de ces nouvelles filières REP qui eux sont chargés d'aller récupérer de la donnée dans chacune de leurs filières plus donc leurs nouvelles obligations sur leur emploi, on souhaitait que cette mise en place là elle soit déjà démarrée pour justement bénéficier. Il y a, j'en ai pas parlé mais il y a en parallèle la création de l'observatoire du réemploi justement qui sont chez nos collègues de la DSREP et qui vont être chargés d'assurer un petit peu suivi de la mise en place des nouvelles obligations réemploi au sein des filières REP. Donc, c'est pour ça que voilà, on est tout ça prenant un peu de retard, on est un petit peu en retard sur le timing, mais c'est des choses qui sont en cours et voilà, ce renouvellement est prévu.
Merci beaucoup, messieurs. Alors, je vous propose qu'on, puisque le temps passe, je vous propose qu'on passe à l'intervention de l'association Don Solidaire, qui va notamment nous parler du don des invendus non alimentaires. Donc, on va laisser la parole à Annabelle Lavigne, sachant que vous avez souhaité faire intervenir cette association aussi pour le volet finalement insertion professionnelle, puisque comme l'a dit comme l'ont dit Christophe et Pierre, c'est vrai qu'une partie des acteurs qui travaillent sur ces questions de prévention déchets sont des acteurs issus de l'économie sociale et solidaire. Et donc, on est aussi ravis de mettre en valeur ces initiatives voilà, qui s'inscrivent complètement dans les politiques RSE des entreprises. Annabelle, la parole est à vous si vous nous entendez.
Est-ce que vous m'entendez?
Très bien.
Parfait. Bonjour à tous et un grand merci donc à l'Académie du MEDEF de nous permettre de présenter cette solution donc du don des invendus aux associations et de vous présenter en quoi le don est une solution de prévention des déchets qui peut s'inscrire dans la démarche RSE des entreprises puisqu'elle a un fort impact social. Donc, je vais vous présenter rapidement l'association Don Solidaire. Voilà. Donc, Don Solidaire, c'est une association qui existe maintenant depuis presque 20 ans, qui a une double mission qui est d'agir contre le gaspillage et d'agir contre la précarité. Et ce que nous faisons, c'est que nous travaillons maintenant avec 160 entreprises donatrices qui sont des fabricants et des distributeurs qui nous confient leurs invendus. Voilà, environ 10 millions de produits hein, sont passés entre nos mains l'année dernière. Et ensuite, ces produits sont des produits du quotidien, non alimentaires, neufs, que nous allons redistribuer à plus de 1000 associations partout en France pour venir en aide à environ 1 million de personnes en situation de précarité. Voilà. Donc, nous sommes une association qui, en résumé, accompagne les entreprises dans la gestion de leurs invendus pour aider d'autres associations et des personnes en situation de précarité. Donc, voici quelques-uns de nos donateurs parmi les 160. Et ce qui est important, en fait, de souligner, c'est qu'on travaille aussi bien avec des grandes entreprises qu'avec des PME. Et nous travaillons aussi avec des fédérations qui accompagnent les entreprises, donc des fédérations sectorielles, voilà, qui peuvent accompagner leurs membres pour mettre en place le don des invendus. Donc, que dit la loi AGEC sur le sujet des invendus non alimentaires? Donc, depuis le 1er janvier 2022, l'interdiction de détruire les invendus non alimentaires est entrée en vigueur. Et donc, les produits de première nécessité doivent en premier lieu être réemployés via le don à des structures de lutte contre la précarité. Et par ailleurs, il y a interdiction de recycler certains produits comme les produits d'hygiène ou les produits de puériculture. Et la loi demande aussi à ce qu'une convention de partenariat soit établie entre les entreprises qui vont faire don de leurs invendus et les structures de solidarité réceptrices de ces produits. Donc, un invendu, pour rappel, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un produit qui était destiné à la vente, mais qui n'a pas pu être vendu. Et donc, ce ne sont pas des déchets, les invendus. On est dans la prévention des déchets. Et il existe des possibilités de donner aussi des produits qui ont des non-conformités mineures, sous réserve que ça ne rend pas le produit impropre à la consommation. Donc, ils peuvent être donnés. Donc maintenant, quel produit est-ce qu'on peut donner? Pourquoi est-ce qu'il y a des invendus? En fait, les sources d'invendus, elles sont multiples. Elles sont créées tout au long du cycle de vie du produit, donc à partir de la production où il peut y avoir des non-conformités, comme je disais, par rapport au cahier des charges, des petits défauts sur le produit ou sur l'emballage. Ça peut être des dates de durabilité minimale qui se rapprochent, des changements d'allégation, des licences, par exemple, hein, qui expirent, sont quelques exemples. Ou bien, tout simplement, voilà, un lancement qui n'a pas fonctionné, une promotion en surplus, des fins de série ou des retours. Et donc, tous ces produits, nous les récupérons. Et quels sont les produits qu'on collecte particulièrement? Ce sont ceux qui répondent aux besoins des associations. Et donc, dans l'ordre, les produits qui sont les plus demandés sont les produits d'hygiène de base du quotidien, hygiène corporelle, et les produits d'entretien du linge et de la maison. Et puis, il y a aussi les gelées jouets, le matériel de puériculture, les fournitures scolaires pour permettre aux enfants de faire une rentrée avec tout le matériel et les fournitures dont ils ont besoin. Des vêtements, des sous-vêtements, des chaussures basiques, du linge de maison, ça peut être des couettes, des oreillers, de l'équipement de la maison, ça peut être de la vaisselle par exemple, et puis tout ce qui est sport, loisirs. Donc, pourquoi donner ces invendus à Don Solidaire? Quels sont les avantages concrets pour une entreprise? Donc, il y a des avantages qui sont assez nombreux. Le premier, c'est l'avantage financier, puisque le don de produits est éligible au mécénat et il permet à un donateur de défiscaliser le don des produits et le transport d'ailleurs aussi, puisque la livraison en général se fait par le donateur sur notre entrepôt. Et donc, cette défiscalisation est à hauteur de 60% du coût de revient des produits. Et par ailleurs, Don Solidaire étant une association reconnue d'utilité publique, il y a une exonération de régulariser la TVA sur les produits qui sont donnés. Bien sûr, l'optimisation logistique, c'est-à-dire qu'on réduit les stocks qui sont coûteux. Et puis, Don Solidaire permet de gérer les dons de toute taille. C'est-à-dire qu'on peut avoir récupéré des dons de quelques cartons à des centaines de palettes. Et puis, en passant par un interlocuteur unique, en fait, ces dons sont redistribués à des dizaines, voire des centaines d'associations partout en France. Donc, c'est une solution qui est fiable. parce que elle est très encadrée. Les associations qui vont avoir accès aux produits que nous avons collectés sont rigoureusement sélectionnées. C'est très très important. C'est voilà un souci quotidien chez nous de pouvoir assurer la traçabilité des produits jusqu'aux associations. Et pour cela, on a un ERP, on est digitalisé et en l'occurrence, on fonctionne avec SAP Business One. Ça nous permet de dire à nos donateurs où sont partis les produits, comment ils ont été distribués, à combien d'associations, lesquelles. Mais je reviendrai dessus puisqu'on fait aussi un reporting social que je vous présenterai rapidement à la fin. Et donc justement, j'en viens au sujet de la RSE. Ce don des invendus rentre complètement dans la démarche RSE des entreprises puisqu'elle a un véritable impact. Voilà, on valorise les invendus de manière solidaire. On aide des personnes en situation de précarité. Voilà, et je vous montrerai donc le rapport d'impact social qu'on peut envoyer, enfin qu'on envoie à tous nos donateurs. Donc, je pense qu'on va passer cette diapo, on va directement aller à la suivante, merci, qui est concrètement quelles sont les étapes pour faire un don. Donc, c'est très simple, il y a 3 étapes pour un donateur pour réaliser un don. La première, c'est d'envoyer une proposition à Don Solidaire, à laquelle nous allons l'étudier pendant 48 heures et vous donner une réponse et vous envoyer les modalités de livraison. La deuxième étape pour le donateur, c'est donc de préparer logistiquement les produits qui sont à donner et de prendre rendez-vous avec notre entrepôt. Et la troisième, c'est de livrer les produits sur notre entrepôt qui est situé en région parisienne. Alors, il y a aussi possibilité quand ce sont des dons qui sont en petite quantité, qu'on fasse un don directement du donateur à l'association. Et dans ce cas-là, effectivement, pas besoin de passer par notre entrepôt central. C'est ce qu'on appelle le don en local, non en direct. Et ensuite, ça ne s'arrête pas là. Nous, derrière, c'est là qu'on intervient. On réceptionne les produits, on émet le reçu fiscal. Et puis, on va redistribuer aux associations partout en France. Et on enverra un rapport d'impact social. Et puis, si le partenaire souhaite valoriser, dans le cadre de sa démarche RSE, ses dons d'invendus, on peut travailler ensemble aussi à de la communication interne, voire externe, sur cette démarche de don. Est-ce que ça a pu apporter. Donc, je vais juste faire un point maintenant sur quelle est la destination finale des produits, puisque une fois qu'on les a reçus, donc nous, on va aider des centaines d'associations partout en France. Et ces associations, c'est à la fois des grands réseaux caritatifs que tout le monde connaît, mais aussi beaucoup de petites associations locales qui sont très importantes pour lutter contre la précarité. Et les missions de nos associations partenaires, elles sont multiples. Donc, il y a les associations qui font de l'aide matérielle, donc par exemple les épiceries sociales qui vont accueillir des personnes pour une durée donnée et leur permettre de faire des courses alimentaires et non alimentaires moyennant une contribution symbolique. Il y a toutes les associations de grande exclusion qui aident les personnes à la rue, les personnes sans hébergement pérenne, qui sont en foyer, qui vivent dans des bidonvilles, les réfugiés. Beaucoup d'associations qui font de l'aide à l'enfance en danger, de l'aide à la jeunesse et toutes les associations étudiantes aussi. On sait que la précarité étudiante est en forte hausse, qu'il y a des besoins très importants. Toutes celles qui font de l'insertion par l'activité, qui aident les personnes à réapprendre un travail, les personnes éloignées de l'emploi. Voilà. Et puis, il y en a encore beaucoup d'autres, hein, celles qui font de l'accompagnement aux démarches administratives pour les personnes précaires. Toutes celles qui soutiennent les personnes âgées ou isolées. Et donc, notre fonctionnement, très rapidement, comment est-ce qu'on fait ? En fait, notre modèle, c'est qu'on va demander aux associations qui ont besoin de ces produits d'adhérer à Don Solidaire annuellement. Donc, c'est renouvelé tous les ans parce qu'on veut être certain de pouvoir contrôler quelles sont les associations très régulièrement et qu'elles continuent à bien fonctionner pour toujours rassurer nos donateurs. On fait signer une charte d'engagement aux associations et on demande une petite participation aux frais qui est une contribution symbolique. Qui nous permet de nous assurer aussi que ces produits correspondent bien aux besoins des associations lorsqu'elles commandent et qui permettent de couvrir notamment les frais logistiques, de stockage et d'envoi vers les associations. Et voilà, donc là j'en viens au rapport d'impact social. Pour nous, c'est très très important de faire ce reporting social à nos donateurs. On va envoyer, donc là je prends l'exemple de Jura Toys et Stéphanie Bartolo qui est directrice RSE de Jura Toys prendra la parole juste après, témoignera de son engagement à nos côtés. Et donc je vous montre un petit peu en quoi consiste ce reporting. On vous fait un résumé, une synthèse en fait des dons qui ont pu être faits sur l'année, combien vous avez fait de dons, combien de produits vous avez donnés et ce à quoi ça correspond en valeur marchande. Un petit historique, si ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble, des dons. Et puis surtout, vous pouvez voir combien d'associations ont reçu des produits, où elles sont situées par région, donc c'est la petite carte de France que vous pouvez voir en bas à gauche, et la typologie des associations bénéficiaires, voilà, en fonction de leur mission. Et puis, il y a un fichier dans lequel on vous met la liste exacte des associations qui ont reçu les produits qui ont été donnés. Et puis, outre ce reporting quantitatif, il y a aussi un reporting qualitatif qu'on voit sur la diapo suivante. On vous envoie beaucoup de témoignages, enfin le plus possible de témoignages pour vous montrer en fait l'impact que peut avoir ce don de produit pour les associations et pour les bénéficiaires qui les reçoivent. Donc là, c'est un exemple d'un témoignage d'une association qui avait reçu des jouets de la part de Jura Toys. Et donc, dans le rapport d'impact qu'on envoie, il y a plusieurs témoignages voilà, que vous pouvez aussi faire circuler en interne. Et ça participe à la fierté des collaborateurs de savoir que leur entreprise est engagée dans une démarche de don, une démarche RSE solidaire. Voilà. Et puis, juste pour terminer, nous, on collecte des produits tout au long de l'année. Tout type de produits et notamment, comme je disais, les produits d'hygiène et d'entretien. Et ça permet donc aux entreprises de nous donner en continu. Mais on a aussi des temps forts et notamment Femmes en Fête hein, qui va aider les femmes, le kit scolaire donc qui va aider les familles avec des enfants pour que les enfants fassent une rentrée en étant équipés avec toutes les fournitures et le matériel neuf dont ils ont besoin. Une opération aide hivernale, donc là c'est plus sur la période de novembre à mars de la trêve hivernale pour aider les personnes à avoir accès à des produits chauds, à des produits d'hygiène sous forme de kits aussi, voilà, à des duvets par exemple. Et puis une grosse opération Noël pour tous qui va aider à la fois les enfants puisqu'on va collecter des cadeaux, des jeux, des jouets, mais aussi des cadeaux pour les adultes. Et donc ça permet aussi aux entreprises qui souhaitent s'engager pour une cause particulière de le faire à un moment spécifique de l'année. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup et puis j'espère que je vous ai convaincu que le don des invendus était une solution simple, fiable et qui a un vrai impact social, donc qui peut s'insérer dans votre démarche RSE. Et puis je laisse peut-être la parole à Stéphanie Bartoulot pour qu'elle puisse témoigner de son engagement à nos côtés.
Parfait, merci.
Bonjour à tous.
Annabelle, et donc on laisse la parole à Stéphanie en effet.
Merci.
Bonjour Annabelle et merci, bonjour à tous. Oui, en effet, Annabelle l'a très bien résumé. C'est une collaboration d'assez long terme, je dirais, puisqu'on est rentré en contact avec Don Solidaire il y a 5 ans maintenant. À l'époque, on n'avait effectivement jamais pris le temps de traiter ce sujet des invendus. Les stocks commençaient à se faire relativement lourds. Donc, c'est l'un des avantages, déjà, c'est de faire une bonne action tout en libérant ses stocks, et tout le monde sait aujourd'hui combien le coût d'un stockage est important. Alors nous, particulièrement en termes de timing, nous travaillons habituellement avec Don Solidaire sur l'opération Noël pour tous. Donc en effet, comme l'a expliqué Annabelle, on fait une proposition de don avant l'été et puis Don Solidaire nous fait un retour et ensuite on envoie en fonction. Exceptionnellement, nous avons eu une autre participation en rapport avec la situation en Ukraine cette année. Donc, nous avons fait un don supplémentaire pour les familles ukrainiennes accueillies en France. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que par rapport aux besoins, on a Don Solidaire qui va se positionner et qui va tout organiser pour nous. Je dois dire qu'au départ, quand on a cherché quelqu'un pour ce sujet don de produits, on était sollicité de part et d'autre par de nombreuses parties prenantes, des petites associations, et c'était très chronophage pour nous de pouvoir gérer toutes les associations de manière indépendante, que ce soit des petites associations locales, la Croix-Rouge ou autres. Et ça, c'est un gros avantage qu'on a avec Don Solidaire. Et puis, comme l'a très bien dit Annabelle, c'est déductible fiscalement. Et enfin, un intérêt extrêmement important pour nous aussi, c'est la communication interne et puis la fierté des collaborateurs par rapport au fait que l'entreprise fasse don de ses produits et puisse rendre les enfants heureux pour Noël. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions au sujet du fonctionnement, mais je crois qu'Annabelle a très bien tout résumé.
Merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage et cette présentation très inspirante là, de cette association. Donc juste à rappeler qu'il s'agit bien de don d'invendu hein, et non de réemploi de déchets. Hein. C'est quand même deux notions qui peuvent paraître proches à ceux qui ne sont pas spécialistes, mais qui sont quand même très différentes du point de vue notamment du code de l'environnement. Et donc voilà, Don Solidaire travaille donc sur la reprise des invendus. Et d'autres associations, en revanche, travaillent plutôt sur les questions de réemploi de déchets, ceci étant pour répondre à une question du chat.
On va excusez-moi, c'est juste, je voulais repréciser que c'est vrai que dans la loi, c'est un peu confusant parce que la loi parle de réemploi par le don, donc, alors qu'effectivement, on est plus dans la prévention des déchets, donc on n'est pas réellement dans le réemploi.
Voilà, on va laisser la parole à l'entreprise Tricycle et à son directeur général, Xavier Porchier. Xavier, la parole est à vous.
Bonjour.
Voilà, et éventuellement, je ne sais pas si vous avez une présentation.
Oui.
Pas. Et normalement, vous avez la possibilité de la partager en direct.
Oui. Voilà. Est-ce que c'est bon ?
C'est en train d'arriver. Alors là, on voit votre écran, mais voilà, c'est bon. Si vous pouvez le passer en grand écran, ça serait parfait.
C'est bon ?
Parfait.
Ok. Alors, moi, je me présente, je suis Xavier Porchier, le fondateur de l'entreprise Tricycle. Donc, Tricycle, c'est une entreprise d'insertion qui est effectivement dans l'économie circulaire. On existe depuis 2009 maintenant. Et pour vous situer un peu, on est un peu plus de 100 personnes et on fait aux alentours de 6 millions de chiffres d'affaires. Donc Tricycle, il y a différentes marques qui à chaque fois s'imbriquent l'une dans l'autre. Donc la marque historique, c'est Tricycle Environnement. C'est vraiment la collecte de déchets, ce qu'on appelle le vidage de site. C'est-à-dire quand les grosses entreprises déménagent, elles ont une tendance à tout laisser sur place. Et nous, on intervient après les déménageurs pour vider les bâtiments entièrement. Après, on a Tricycle Office, qui est une entreprise qui vend du mobilier de bureaux d'occasion, donc qui vient, vous l'avez compris, de Tricycle Environnement. Après, on a une marque qui s'appelle Gepetto, qui va fabriquer du mobilier à partir de déchets, c'est-à-dire à partir des bureaux qu'on n'aura pas pu revendre d'occasion, on va pouvoir aller les refabriquer, donc refabriquer du mobilier comme ça. Après, il y a la partie curage, donc là, on est vraiment sur une approche très BTP, c'est-à-dire qu'une fois que le bâtiment, il n'y a plus de mobilier, tout, il est entièrement vide. Là, on va aller enlever les cloisons, les faux planchers, tout ce qui est non porteur dans un bâtiment. Et enfin, la dernière marque, c'est Baticycle qui vend d'occasion tout ce qui a été curé. Donc, c'est vraiment les moquettes d'occasion, les radiateurs, les portes, etc. Donc là, vous voyez, il y a un schéma qui récapitule, parce que vous avez beaucoup de marques, donc ça peut être un petit peu lourd, qui récapitule ce que je viens de vous dire. Donc, vous avez à gauche les deux marques qui vont récupérer ou curer les choses dans les grosses structures. Tout ça, on le ramène chez nous dans un centre de tri. Donc, il y a tout ce qui va aller au recyclage. Sinon, ça part dans notre atelier de transformation pour être dirigé sur les différentes marques de revente. Donc, mobilier d'occasion, Tricycle Office, Baticycle, matériaux de seconde œuvre et Gepetto, matériaux d'upcycling, donc de fabrication de mobilier et d'objets à partir de déchets. Donc en fait, notre force, nous, ça va être de contrôler vraiment l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire de la récupération, juste le fait de le ramener chez nous, de pouvoir le transformer, de le réembellir, de le nettoyer, de le remettre comme il faut, pour après le redistribuer et assurer entièrement la vente et la distribution du produit, donc de A à Z. Et dans nos savoir-faire, c'est un exemple de dépôt soigné. C'est-à-dire que nous, on a dû un peu faire évoluer notre métier, puisque à la base, le curage, c'était un peu arrivé avec une masse et tout cassé. Et puis aujourd'hui, notre métier, ça n'oublie un peu puisqu'on doit aller déposer les choses soigneusement parce que si vous voulez le revendre, évidemment, on ne peut plus utiliser la masse comme avant. Et donc, ça passe par une dépose donc soignée, appliquée et un conditionnement particulier. Donc, pour contrôler vraiment l'ensemble de la chaîne, on a notre propre flotte de camions. C'est un peu essentiel, donc de toutes les tailles, évidemment, en Île-de-France. Et on a, sur la partie déchets, on a notre propre centre de tri, ce qui nous permet d'être complètement indépendant et de pouvoir gérer la partie déchets, donc qui est non recyclable, non réemployable, je veux dire non revendable, d'être 100% autonome. Je passe ce slide, excusez-moi. Donc, la partie récupération, pour vous montrer, nous, on s'adresse plutôt aux grosses structures. Donc, pour prendre l'exemple du mobilier, faut imaginer qu'on va aller récupérer des scieries très importantes quand on va collecter des sites, comme vous le voyez là sur le slide, où il va y avoir, par exemple, 1000 bureaux, 1000 fauteuils. Donc, on est vraiment sur des longues séries. Au niveau de la revente, donc on vend à travers notre showroom qui est situé à Gennevilliers. Donc, tout ce que vous pouvez trouver dans une tour, si on sait qu'il y a un client en face qui sera prêt à racheter d'occasion, on le ramène à Gennevilliers, on l'embellit pour le revendre. On vend aussi sur Internet, sur notre site Tricycle Office. Les clients auxquels on s'adresse, initialement, c'est plutôt les petites structures. On a créé l'entreprise de revente en pensant aux petites structures, mais grâce à, notamment avec la loi AGEC et puis avec l'envie de l'économie circulaire qui avance, on a de plus en plus de grosses structures qui viennent commander du mobilier d'occasion, notamment Bouygues. Il faut savoir que toutes les bases vides, donc tous les chantiers qu'il y a en Île-de-France de Bouygues, on les équipe en mobilier d'occasion. Ça, c'est une partie importante de nos débouchés. On a aussi donc un autre site internet pour la partie vente. Donc là, c'est matériaux de déconstruction. Donc là, on est dans le monde du bâtiment. Donc c'est pareil. En gros, les prix, vous pouvez les acheter aux alentours de 30% du prix neuf. Je vous ai parlé de notre atelier. Notre atelier, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est ce qui nous permet pas juste de prendre un objet et de le revendre d'occasion. Aujourd'hui, on sait que si on veut aller encore plus loin, il faut que ce qu'on revende s'approche de plus en plus du neuf. Et donc, on va être capable de… Là, je prends l'exemple des bureaux qu'on récupère. On va être capable de les redécouper, de recoller un champ pour revendre des bureaux qui seront plus petits. Aujourd'hui, c'est plutôt la mode du flex office. Donc, les gens ont envie de petits bureaux. Ceux qu'on récupère, donc ils ont quelques années, donc ils sont souvent un peu grands. Donc, on est capable d'aller réduire leur taille. Sur les parties fauteuils, par exemple, l'assise que vous voyez, on va être capable de changer les assises si c'est nécessaire, de changer les accoudoirs et de remettre un petit coup de bombe sur les piétements du fauteuil. L'idée, c'est vraiment d'allonger la vie du produit. Là, je vous donne un exemple donc sur la partie bâtiment. Sur la partie donc bâticycle, les sanitaires qu'on récupère, on va avoir tout un process pour les remettre à l'état quasi neuf. Donc on va les tremper dans des bains d'acide et puis après on va avec un contrôle qualité évidemment. Et puis après on va les réencoder pour pouvoir les remettre sur le marché. Là c'est un exemple sur les portes où sont la même chose. C'est un projet qui voit le jour d'ici un ou deux mois, mais j'avais envie de le mettre dans cette présentation. L'idée, c'est de les portes qu'on récupère, on est capable d'aller enlever entièrement le stratifié de la porte et de remettre un plaquage neuf. Donc, vous avez une porte qui est neuve à l'extérieur, mais qui est d'occasion à l'intérieur. Donc, en bilan carbone, l'ADEME en parlera mieux que moi, mais vous êtes techniquement sur un bilan quasiment à zéro. Puisque comme on est en circuit ultra court, nous, on récupère, nos chantiers sont en Île-de-France. On est nous-mêmes en Île-de-France et ça repart en Île-de-France. On est sur une empreinte très, très faible. La partie Gepetto, donc la création du mobilier, donc l'upcycling. Donc là, on travaille avec des designers. Et donc là, je vous montre quelques photos de choses qu'on peut faire. Donc là, on répond un peu à… On a des produits en série, mais aujourd'hui, on répond un petit peu à la demande des architectes de nos clients pour qui on va produire des gammes. Donc, on est sur des moyennes séries aux alentours de 50 à 300 unités quoi, par type de produit. Donc, on est une entreprise d'insertion. Je fais rapidement ce que je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent. C'est un contrat tripartite avec l'Adriette, c'est le et Pôle emploi, où on a des salariés qui sont éloignés de l'emploi. Et nous, on va leur faire un contrat qui va durer 2 ans. Et pendant 2 ans, donc 2 ans maximum, on leur fait un accompagnement social et professionnel pour que, et dans les 2 ans, notre mission, c'est qu'ils sortent pour trouver un CDI dans le milieu traditionnel. Donc, on a nos chiffres qu'on appelle les chiffres de l'ESS, qui sont nos taux de sortie positifs. Donc, ces fameuses personnes qui vont trouver un CDI en sortant de chez Tricycle, donc qui est de l'ordre de 70%. Et puis après, bon, les autres chiffres, je ne rentre pas dans les détails pour ne pas vous ennuyer, mais ils sont accessibles évidemment sur Internet et on les met régulièrement sur LinkedIn. Pareil sur les tonnages économisés, parce que ça a été soit parce que ça a été revendu, et puis dans une moindre mesure, c'est-à-dire la solution moins sympa, ça va être d'aller au recyclage. Chez tous nos clients, que ce soit les gens qui viennent acheter des choses ou les gens chez qui on les a récupérés, on leur fournit ce qu'on appelle un rapport RSE, qui est un peu un support com sur lequel on va expliquer le nombre de personnes en insertion qu'on travaillait pour faire la prestation et le nombre d'heures équivalent. Et puis après, pour chaque type de déchet, on va leur dire ce qu'on en a fait, si on l'a revendu, si on l'a rénové, si on l'a mis au recyclage. Et on a aussi, vous pouvez télécharger en ligne pour chacun de, donc ça c'est pour nos clients, ils pourront télécharger en ligne les documents surface, les documents donc plus officiels cette fois-ci, un peu moins, on est moins dans la communication, mais c'est les documents obligatoires pour notamment pour vos certifications ISO 26000 ou autres.
Eh bien, merci beaucoup Xavier pour cette présentation très complète là de votre structure. Voilà, on vous enverra là aussi la présentation de Tricycle. C'est vrai que c'était une structure assez inspirante dans le cas notamment de la mise en place de la nouvelle filière sur les matériaux et produits de construction, donc qui rentre parfaitement dans le cadre aussi des enjeux de la filière donc du bâtiment. Éventuellement, on a le temps de prendre une ou deux questions. Je ne sais pas si il y en a dans le chat. Alors, une question notamment pour vous, Xavier, sur le périmètre de votre activité. Est-ce que vous travaillez sur toute la France ou principalement sur l'Île-de-France?
Alors, sur la partie revente, toutes les entités qui revendent, ça, c'est vraiment à travers la France. Et sur la partie collecte-récupération, on est à travers la France, mais sur des plutôt grosses prestations. Parce que c'est pour aller chercher un petit camion de mobilier à Toulouse, comme on est parisien, je prends une ville très loin. Ça, on ne le fera pas parce qu'il n'y a aucune réalité économique et écologique de le faire. Voilà.
D'accord, très bien.
Il y a un rapport distance-volume pour vous répondre.
Okay. Dans tous les cas, le mieux, c'est que les entreprises intéressées vous contactent. On mettra également vos contacts dans le mail de diffusion. Donc voilà, il est bientôt 15h. Je ne sais pas trop si on a le temps de prendre une dernière question éventuellement. Sinon, encore une fois, voilà, on va remercier d'une part l'ensemble des intervenants pour ces présentations d'exemples et puis même pour l'introduction générale sur le sujet prévention et gestion des déchets, avec encore une fois l'idée que ce sujet de la prévention des déchets peut être aussi un sujet porteur de sens pour les entreprises. Et donc, c'était en ça que ça nous intéressait de porter ce sujet avec nos collègues de la RSE. Et donc, on espère en effet que ces présentations auront été inspirantes pour vous. Pour finir, donc on vous rappelle également l'organisation de notre événement dédié aux 3 ans de la loi économie circulaire, le 16 février matin. Donc, on aura très vite une information sur les réseaux sociaux pour vous inscrire à cet événement. Donc, où il sera aussi question de réemploi, de réparation, de gestion des déchets, d'utilisation des ressources. Donc, en résumé, de l'économie circulaire. Voilà, bon après-midi à tous. Et puis, écoutez, à très bientôt avec les webinaires MEDEF Academy.
C'était un podcast de l'Académie. Nous tenons à remercier les collaborateurs du MEDEF qui ont œuvré à sa réalisation, ainsi que l'ensemble des intervenants. Retrouvez de nombreux autres enregistrements sur le site l'academiemedef.fr. Merci pour votre écoute et votre fidélité. À bientôt.